Chers amis auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de Nogent-le-Rotrou pour une nouvelle émission « Les échos de ma commune », émission qui est sponsorisée par le Conseil départemental d'Eure-et-Loire. À la technique, Claude Casal, Jean-François Roland au micro. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir M. Cyril Leclerc, qui est chargé du pôle développement au niveau du pôle territorial du Perche. M. Cyril Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Pôle territorial du Perche. Et encore, j'ai énoncé le titre de votre entité, mais beaucoup de gens disent PETR, donc on va essayer de sortir de tout ça. Alors, le citoyen que je suis, je connais la commune, je connais mon maire, je connais la communauté de communes à laquelle appartient ma commune, le conseil départemental et la région. Est-ce que vous pouvez démystifier un petit peu et replacer le pôle territorial du Perche dans cette litanie de strates quasiment administratives.
Tout à fait. Donc le pôle territorial du Perche, en fait, c'est l'ancien pays Perche que certains citoyens connaissent bien. Il mutualise un certain nombre de compétences pour trois communautés de communes qui sont du nord au sud, Forêt du Perche, qui est un regroupement de l'Orée du Perche et du Perche Senonchois, Terre de Perche, qui est un regroupement des portes du Perche et du Perche Tironnais, et enfin Perche, voilà. Et le pôle territorial du Perche regroupe en fait quatre compétences importantes pour le territoire, qui sont les compétences tourisme, économie, environnement, énergie et urbanisme. Donc c'est ces compétences-là qu'on porte pour les citoyens de ces trois communautés de communes sur le territoire.
On voit vos domaines d'intervention, qui sont des domaines transversaux sur l'ensemble des communes. Comment finalement cela fonctionne ? Parce que votre action nécessite des ressources financières, des choix, j'imagine, parmi plusieurs projets. Donc comment est-ce que cela fonctionne à l'intérieur du pôle territorial, qu'il constitue, qu'il fait vivre et qui, je dirais, avalise les décisions et fait des arbitrages si nécessaire ?
Alors au pôle territorial, sur ces quatre compétences ou ces cinq compétences, puisqu'on a aussi des missions, on a un bureau qui est constitué des élus du territoire, donc essentiellement les trois présidents des trois communautés de communes, donc normal, et plus des vice-présidents qui sont affectés à nos compétences. Ce bureau décide de la stratégie du pôle sur notre territoire, dans le cadre de ses compétences, et on a pour chaque chargé de mission un vice-président affecté donc à l'économie, au tourisme, à l'urbanisme, à l'énergie et aussi aux fonds européens, puisqu'on gère des fonds européens.
Ok, et donc quelles sont les autres strates qui avalisent les décisions parce que bon, c'est une structure qui gère des fonds, donc il y a quand même, j'imagine, un moment où les décisions sont présenté et avalisé par les élus. Comment ça se passe alors, par rapport au bureau ?
Donc le bureau prend en fait les décisions stratégiques qui sont présentées à un conseil syndical qui est composé de l'ensemble des maires de la cinquantaine de communes de notre territoire. Donc en fait, pratiquement tous les mois, le bureau se réunit. On acte évidemment des bilans, on prend acte de ce que l'on a fait, on prend des décisions pour les mois suivants et on les présente au conseil syndical qui vote, qui délibère en fait sur ce qu'on va faire sur les prochains mois.
D'accord. Et alors, le pôle territorial du Perche, ce type de structure existe dans d'autres départements français ou c'est quelque chose qui est novateur ? Moi, personnellement, j'en avais pas entendu parler dans les derniers mois. Donc, c'est une structure nouvelle et qui est développée en France ?
Alors, c'est une structure nouvelle puisqu'on a été créé en 1er janvier 2016. Et là, je dois saluer le dynamisme de mon président puisqu'on a été un des premiers pôles territoriaux en France qui prend des compétences pour un certain nombre de communautés de communes, puisque nous, on en a trois. Et surtout, on est le seul pôle territorial en Eure-et-Loire et un des seuls en région centre, puisque aujourd'hui, à date, on est le seul et il y en a deux, trois qui se constituent. Vous voyez, en 2017, alors que nous, on s'est constitué en 2016. Voilà, on a été en pointe là-dessus et c'est tout à fait utile pour nos citoyens, en tout cas, de pouvoir porter des compétences alors qu'un pays ne portait que des missions.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, si vous voulez, vous êtes chargé du développement. Est-ce que je peux dire développement économique?
Oui, vous pouvez le dire.
Bon, très bien. Alors, est-ce qu'on peut focaliser, puisque bon, on a bien compris quelles étaient toutes les compétences du pôle territorial, mais sur vos propres compétences, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs les principales missions dont vous avez la charge, et puis ensuite peut-être prendre des exemples pour être plus concret pour les gens qui nous écoutent.
Oui, tout à fait. Donc en fait, moi je suis en charge du développement économique. Alors ça peut paraître un peu barbare comme terme, mais en gros, le rôle du développeur économique, c'est d'aller voir les entreprises, de recueillir leurs besoins. Alors ça peut être des difficultés, ça peut être du développement, ça peut être de l'investissement, ça peut être une embauche, évidemment, puisque l'emploi, c'est primordial pour nous. Donc on recueille ces besoins quand on rencontre nos entreprises et on essaye de trouver des solutions. Voilà. Et ces solutions, je ne les trouve pas seul, hein. Je suis entouré de tout un tas de partenaires. On a un organe qui s'appelle le comité de dynamisation, où on a tous les partenaires économiques et de l'emploi qui m'aident à trouver des solutions pour les entreprises. Donc ça, c'est une activité importante sur le territoire, puisque nos priorités, c'est de maintenir nos entreprises sur le territoire du Perche Aurélien. Donc ça, c'est pas toujours facile, hein. La vie des entreprises, il y a des créations, il y a des défaillances,
des vicissitudes,
etc.
Oui.
Il y a de l'embauche, il y a des licenciements. C'est la vie d'une entreprise. Notre rôle, c'est de les maintenir, voilà, dans de bonnes conditions, évidemment. Après, évidemment, on a un autre rôle, c'est d'attirer des entreprises. Donc j'ai une grosse mission aussi d'accueil de porteurs de projets, de gens qui veulent s'installer sur le Perche. Donc on a un aura, effectivement, aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup du Perche. Donc il y a des gens qui viennent voir et qui, à terme, souhaitent s'installer. Donc nous, on a un rôle de facilitateur pour que les gens puissent s'installer sur le Perche. Donc ça, c'est une activité importante dans mon emploi du temps.
Quand vous dites facilitateur, c'est-à-dire que pour un porteur de projet ou pour une entreprise qui existe, votre rôle consiste à les aider à monter un dossier, à obtenir des subventions de Bruxelles ou d'autres services de l'État français. Comment ça se concrétise?
Souvent je les accueille soit au bureau du PETR qui se trouve à Nogent-le-Rotrou, soit je vais dans l'entreprise si c'est une entreprise déjà constituée. Je recueille leurs besoins. Souvent, c'est des besoins financiers, hein. On ne peut pas se le cacher, puisqu'il y a un développement ou des choses comme ça. Donc après, je renvoie vers le meilleur interlocuteur.
Voilà.
Donc bon, la source de financement principale d'une entreprise, ça reste le circuit bancaire, hein. Mais on a d'autres outils qui sont des outils de la région, des outils avant du département, maintenant moins, parce qu'ils n'ont plus la compétence économique, hein. Des outils de l'État, des outils de l'Europe, des outils privés, comme des gens qui investissent dans les entreprises. Et aussi des outils que porte le pôle territorial du Perche, notamment certaines subventions à l'installation, aux travaux, voilà, pour les entreprises qui souhaitent moderniser leur activité.
Alors, depuis le début là, de l'émission, là, vous parlez d'entreprises. J'ai un petit peu peur que dans l'esprit de nos auditeurs, on voit une usine, etc. Mais moi, j'ai compris que vous occupez aussi d'artisans, de commerçants, des choses comme ça. Donc, vous pouvez développer un peu ce que recouvre pour vous le terme entreprise.
Alors, pour moi, dans ma mission, l'entreprise, ça va de l'agriculteur jusqu'à l'entreprise industrielle.
Voilà, donc c'est...
Toutes les entreprises ont des problématiques. Après, on a des actions prioritaires, effectivement, sur l'élevage, puisque c'est une grosse activité économique sur notre territoire, sur l'artisanat et le commerce. Hein, notre tissu d'entreprise est représenté par 33% d'artisans. Donc ces entreprises artisanales, il faut les maintenir, il faut les aider. Le commerce, on a une problématique autour du commerce de proximité. On est un territoire rural, donc on a aussi, comme tous les territoires ruraux, une vacance des commerces dans les petits villages, dans les centres-bourgs. Donc pour nous, c'est une action primordiale de redynamiser les centres-bourgs. Mais je dirais qu'on le fait intelligemment. Hein, je vous donne un exemple. Un petit village qui n'aurait plus d'activité économique du tout, ça nous paraît difficile de réinstaller. Par contre, dans les petits villages où il existe encore quelques commerces, c'est important de les maintenir et c'est important d'en réinstaller d'autres. Hein, pour garder ce tissu économique.
Ce que vous voulez dire, c'est de votre expérience, c'est que un village, une communauté qui perd tous ses commerces, c'est très 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 compliqué de faire redémarrer, alors que si le tissu commercial s'étiole, ça vaut le coup d'intervenir pour essayer de le maintenir, voire de le redynamiser, c'est ça ?
Très sincèrement, dans un village où il n'y a plus rien, c'est difficile. C'est intéressant de réinstaller, mais il faut que derrière la famille puisse vivre de son activité. Donc ça peut être un commerce multiservice, oui. Ça c'est tout à fait envisageable, mais réinstaller par exemple une boulangerie dans un village où il n'y aurait plus rien du tout, c'est un peu compliqué. Vaut mieux qu'on s'attache à organiser des tournées ou à faire un peu d'innovation sociale comme on l'a fait dernièrement avec les paniers du Perche, où on peut livrer des courses à domicile ou dans un lieu où les gens se réunissent pour venir chercher les courses. Mmh. Voilà, faut qu'on aille aussi dans ce type d'innovation. C'est une façon différente d'acheter ces produits alimentaires, mais c'est une façon intelligente de maintenir notre commerce et d'avoir des porteurs de projets qui s'installent.
Vous avez une vision globale, par exemple, la problématique commerce dans les petits villages. C'est-à-dire que, a priori, vous savez à peu près dans les villages ce qui se passe, ou est-ce que c'est quand un élu ou quelqu'un vient attirer votre attention? Comment vous fonctionnez, par exemple, sur cette problématique-là? Vous avez un diagnostic global ou c'est parce que vous êtes saisi de demandes de commerçants qui veulent s'installer ou de, je sais pas, d'un élu d'un village qui dit mais on est en train de couler?
On a plusieurs sources d'entrée. En tout cas, moi, je travaille beaucoup avec ma collègue de l'urbanisme. On travaille sur un SCOT, hein, c'est un Bien schéma sûr. Territorial sur les 25 prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire? Donc, on a fait un diagnostic village par village, et voire ville par ville de notre territoire. On sait exactement quelles sont les problématiques de chaque village. Et bon, par ailleurs, il y a la parole des élus, évidemment, qui est très importante pour faire un diagnostic de leur propre village. C'est très important pour nous. Après, nous, notre vision était une vision assez large, puisqu'on est sur 3 communautés de communes. C'est une vision large du développement à la fois de l'urbanisme et du développement économique. On ne veut pas spécifier non plus chaque village dans un rôle.
Oui, bien sûr.
Il faut avoir une vision globale. Évidemment que je comprends que chaque élu ait envie qu'on réinstalle du commerce dans son village, mais on peut trouver des solutions alternatives. Il y a aussi l'installation des habitants, hein, tout simplement, puisque pour que le commerce vive, il faut qu'il y ait des habitants.
Il faut qu'il y ait des consommateurs.
Voilà, il faut qu'il y ait des consommateurs. Donc tout se tient, en fait. Et c'est là l'intérêt du pôle territorial. C'est qu'en ayant la compétence tourisme, urbanisme, économie, l'énergie, c'est pour la rénovation des bâtiments, c'est un peu différent. Mais ces 3 compétences-là nous permettent d'avoir une action coordonnée chaque village. Parce que le tourisme, c'est important aussi. L'économie touristique, l'économie des loisirs, pour le Perche, c'est quelque chose de très important. Je veux dire, si on réinstalle une aire de camping-car dans un village où il n'y a plus de boulangerie, c'est peut-être pas intelligent. Voilà, il y a des contraintes, il y a des réflexions, mais en tout cas, avec nos élus, on participe à ce développement-là.
Oui. Non, c'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est que on sent qu'il y a, dans vos propos, qu'il y a quand même une convergence de différents points de vue pour le développement du territoire et le maintien des emplois. Ça, tout à fait. Bien, je pense que certains de nos auditeurs ont entendu parler d'une espèce de, entre guillemets, l'aide au dernier commerce. Mmh. Alors dites-nous ce qu'il en est, comment ça se passe, c'est une réalité, c'est une politique, c'est...
Alors c'est, pour notre territoire, c'est une vraie réalité, hein, puisqu'aujourd'hui, moi je travaille sur 5 projets de réhabilitation de commerce en centre-bourg. Bon, je peux en citer pour les plus avancés, hein, à Saint-Victor-de-Buton, on a un boulanger qui s'en va et qui laisse un local vacant. Qu'on a racheté avec la mairie, qu'on va réhabiliter. Donc il y a un certain nombre de subventions qui permettent de réhabiliter. Et on va réhabiliter ça intelligemment, c'est-à-dire qu'on va réhabiliter en commerce multiservice. Et pour vous donner aussi le sens de notre action, ce commerce multiservice, on va essayer d'attirer une famille, évidemment, pour gérer ce commerce et pour pouvoir en vivre. Donc on a pensé au multiservice, donc bar, épicerie, boulangerie. On va aussi rénover la place de l'église, donc du coup ce qui permettra à ce commerce d'être central et d'avoir une terrasse, proche de l'école qui va être bougée. Voilà, tout se tient.
Tout se tient, oui. Okay.
On a aussi une réhabilitation de restaurant à Argentvilliers. Voilà, un bâtiment que la commune avait depuis une dizaine d'années, qui était vide depuis 3 ans. Plutôt que de rien en faire, autant réinstaller une activité économique et attirer des familles sur notre territoire pour qu'ils puissent vivre correctement de leur activité dans un environnement qui est l'environnement du Perche, qu'on connaît tous, qui est magnifique et agréable.
Très bien. Écoutez, je vous remercie, on va faire une pause musicale.
Che piace a voi così, altre repliche non può, no, 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 non può. Cavalier, voi siete già, dubitar non posso a te, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me. Briconaccia, malandrina, fossi ognor la mia ruina, fossi ognor la mia ruina. Vengo, vengo. Resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Briconaccia, malandrina, fosse ognor la mia ruina, fosse ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.
Chers amis auditeurs, nous retrouvons Monsieur Cyril Leclerc du pôle territorial du Perche. Dans cette deuxième partie, est-ce que vous pourriez préciser pour nos auditeurs ce que vous entendez par Perche ? Parce que c'est une notion géographique assez multiforme, chacun a sa propre définition du Perche. Donc je crois que c'est important que vous nous expliquiez l'émanation donc des trois communautés de communes dont vous avez parlé, leur positionnement. Et comment ça fonctionne vis-à-vis du terme Perche ? Quelle est la réalité du mot Perche dans pôle territorial du Perche ?
Alors pour notre pôle territorial, qui s'appelle le pôle territorial du Perche Eurélien, effectivement je ne l'ai pas dit, qui couvre les trois communautés de communes, Forêt du Perche, Terre de Perche et Perche, on n'intervient que sur le territoire eurélien.
Voilà.
Donc, et vous avez aussi un pôle territorial du Perche Orné, avec qui on travaille... de façon concomitante, hein, il y a la frontière entre les
la
deux
frontière
territoires.
Départementale.
Voilà, départementale et régionale.
Et régionale, oui, c'est vrai,
donc,
tout à fait.
Du coup, ça nous facilite pas forcément,
pas forcément
la tâche.
Compte,
Mais pour les entreprises et les commerçants, les artisans et les agriculteurs, ils vont assez facilement d'un territoire à l'autre, ça pose pas de problème. pour les territoriaux, les agents territoriaux comme nous, bon, bah, il y a la frontière, donc il faut qu'on apprenne à travailler évidemment avec nos collègues d'à côté, ce qu'on fait régulièrement. Preuve en est le routard du Perche, hein, puisque c'est un routard qui sera sur l'ensemble du territoire Perche historique, donc aussi avec le Perche Vendômois et le Perche Sartois.
Oui, donc il y a les quatre Perches.
Les quatre Perches réunies, donc c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, nous on intervient, enfin en tout cas moi, ma mission c'est sur le Perche Eurélien.
C'est un prérequis administratif français,
tout à fait,
il y a les frontières départementales.
Tout à fait.
Vous ne pouvez pas vous en affranchir, mais vous parlez quand même à vos voisins.
Tout
vous
à
avez
fait.
Évoqué à l'instant là, le guide du routard du Perche, dites-nous en plus.
Alors bon, c'est pas le tourisme n'étant pas ma mission, je vais essayer
non,
de faire
enfin,
au mieux.
Non mais c'est intéressant.
Et en tout cas, le pôle territorial du Perche Eurélien a souhaité porter pour l'ensemble des Perches la création d'un guide du routard pour le Perche historique, hein, donc les quatre Perches, qu'on a porté auprès de Hachette, hein, mm-hmm. On peut les citer, voilà, pour qu'on puisse avoir un petit guide du routard sur le territoire. Et ça va être un outil de promotion de développement touristique et de développement économique aussi, hein, on peut se le dire, parce que je parlais d'économie touristique
Bien
et des
sûr.
Loisirs pour notre territoire primordial. Voilà, ça a été un long travail, mais c'est un travail qui aboutit, qui a été fait aussi en plus des pôles territoriaux avec l'appui du parc naturel régional du Perche. Donc c'est un beau projet et j'espère que, allez, on va dire, au printemps 2018, tout le monde aura son routard dans la poche.
Dans sa voiture.
Dans sa voiture, ouais.
Et c'est une initiative qui... C'est-à-dire, c'est une première pour les gens de Hachette de faire un guide plus ou moins sur une proposition d'un ensemble territorial ou...
Non, c'est pas une première, mais le Perche a été choisi aussi grâce au lobbying, entre guillemets, de notre président, puisque notre président est aussi vice-président de l'Association nationale des pôles territoriaux.
Ah, d'accord.
Donc une négociation qui s'est faite au niveau national avec Hachette pour développer un certain nombre de guides de routard pour des territoires. D'accord. Et on a été retenu.
Le Perche est le premier alors ?
Non, on n'est pas le premier, mais en tout cas on a été retenu pour l'année 2018. D'accord. Avec 3 ou 4 autres territoires.
D'accord. Enfin, c'est un beau projet. Hein. Je pense qu'effectivement, on peut que souhaiter que ce guide soit édité et puis vendu, diffusé pour le Perche. Si vous voulez bien, je me passe toujours dans le citoyen lambda. Comment est-ce que on peut vous rencontrer? Comment, si on a besoin de votre aide, on vient vous voir? Comment on sait que vous existez? Parce que je sais que vous êtes un homme occupé, donc comment tous ces porteurs de projets ou élus, comment ça se passe? Comment on vient jusqu'à vous pour demander aide et conseils au pôle territorial du Perche?
Alors la grande partie des porteurs de projets qui me contactent me sont envoyés par les élus du territoire. Parce que dans les territoires ruraux, nos élus sont très présents, hein, et donc ils recueillent souvent les besoins des citoyens ou les besoins des visiteurs, puisque j'ai aussi pas mal de touristes qui se disent à force de venir sur le Perche, bah tiens, ce serait bien que je m'installe ici, puisque je vois qu'il y a un certain dynamisme. Donc, je dirais soit 50 à 60% des gens que je reçois me sont envoyés par les élus, puisqu'ils connaissent bien leur tissu de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs. Après, j'ai une grosse partie de mon réseau qui m'envoie du monde. Donc c'est un réseau qui a constitué des acteurs économiques et de l'emploi, donc les chambres consulaires, les banquiers, les experts comptables, les clubs d'entreprise, etc., etc. m'envoie assez facilement du monde. Pôle emploi, hein, pour les demandeurs d'emploi qui créent une entreprise, m'envoie beaucoup de monde. Et évidemment, le bouche à oreille, puisque ça fait 2 ans et demi que j'exerce ma mission et que les gens qu'on a aidés, bah, ils disent bah, oui, allez voir Cyril Leclerc ou le pôle territorial. Voilà, il peut vous aider à vous installer, à trouver des subsides pour financer le matériel, les travaux, etc.
Donc, je dirais, et c'est loin de moi l'idée que ça soit quelque chose qu'il faille faire, mais il n'y a pas une plaquette qui dit vous venez dans le Perche, voilà tout ce qu'on peut vous offrir. C'est on vient vous voir avec un projet particulier et puis vous, en fonction de votre réseau, de vos compétences, vous pouvez guider, aider le commerçant, l'artisan, l'agriculteur ou l'entreprise qui veut soit s'installer dans le Perche, soit qui veut se développer. Il n'y a pas d'outils de promotion.
Alors on a développé plusieurs outils marketing qui sont en cours de mise en place, je dirais. Alors, il y a effectivement, moi, je suis pas forcément encore sur la plaquette. Je pense que aujourd'hui, faut utiliser les réseaux sociaux, des choses comme
Internet,
ça.
Internet, etc.
Même si, bon, le papier, c'est intéressant. Hein, il y a pas, ça peut compléter les réseaux sociaux. En tout cas, on a développé à la fois une politique d'affichage. Il va y avoir des panneaux à l'entrée de chaque ville. Avec entreprenez, installez-vous dans le Perche, et le numéro de téléphone et l'email.
Ah, c'est bien.
Quelque chose
ça,
de très simple.
Bien.
Donc, c'est des grands panneaux qui font 2 par 2. On en a commandé 7 et ils seront en entrée de chaque commune. Donc, nos gens le retrouvent, la loupe, ce nonche, etc.
C'est bien, c'est bien.
Donc, ça, c'est pour les gens qui passent et qui visitent. Pour les autres, on a un Facebook qui fonctionne très bien, qui s'appelle Vivre dans le Perche. J'invite à tous les auditeurs d'aller voir. On a 1300 abonnés. Donc, du coup, l'abonné faisant rebond sur le réseau social vers d'autres abonnés. C'est important. Les gens connaissent l'émission du pôle de cette manière-là. On fait beaucoup de relais dans la presse, hein, sur l'éco-républicain. Moi, j'essaie d'avoir un article à peu près toutes les 2 semaines sur les commerçants, les artisans ou les agriculteurs qu'on a accompagnés. On est relayé aussi sur dans le journal L'Action. Voilà, on essaye effectivement de communiquer un maximum. C'est vrai qu'on ne distribue pas forcément de plaquettes.
Non, mais c'est peut-être pas... Effectivement, je crois qu'en 2017, c'est pas forcément la plaquette sur papier glacé qui est la plus efficace.
On a de l'affichage. Souvent, il y a des affiches aussi dans chaque mairie. Les secrétaires de mairie sont informés de nos missions, nous renvoient aussi beaucoup de monde. Voilà, moi, aujourd'hui, je vois 3 à 4 personnes par jour en rendez-vous. Donc, je pense que l'information passe correctement et que le citoyen est informé de la mission du pôle. Après, il faut faire la démarche d'appeler et de prendre un rendez-vous.
Bien sûr.
Tout le monde ne le fait pas forcément. Bien
sûr. Donc, non, mais je pensais à une chose, par exemple, vous parliez de Saint-Victor-de-Buton, où finalement, bon, vous avez un projet qui consiste à à rouvrir cette ancienne boulangerie, etc. Est-ce que, quand les travaux seront terminés, que la famille qui va gérer ça sera installée, est-ce que quelque part il y aura marqué que ce commerce a été rouvert avec l'aide du pôle territorial du Perche? Pas forcément une plaque en cuivre, mais pour montrer des réalisations. Parce que finalement, c'est un petit peu la question que j'ai au bord des lèvres, c'est... Vous faites certainement beaucoup de choses, mais où est-ce qu'on peut, comment, quand on n'est pas partie prenante à vos activités, quand on est un citoyen lambda, comment est-ce qu'on sait ce que vous avez fait, vos réalisations, etc. Comment on peut connaître les réalisations, par exemple, de l'année 2016, peut-être pas 2016 parce que c'était les balbutiements, mais comment est-ce qu'on saura ce que vous avez fait en 2017 ?
D'accord. Pour les commerçants, les artisans, les agriculteurs qu'on aide, pour lesquels on verse des subventions ou on accompagne au financement, ils sont quand même tenus de mettre un autocollant sur leur vitrine.
Ah, un autocollant.
Voilà,
un
en autocollant. Disant que le pôle territorial les a aidés, que la région ou le département a financé. Mais ou
ça,
l'État,
c'est important, ça, je crois.
Ou l'Europe. Voilà, vous savez très bien, j'imagine que... Quand vous avez des subsides de l'Europe, il faut voilà, vous l'avez ici.
Il y en a ici.
Vous devez apposer l'autocollant, le drapeau européen, etc. Donc ça, c'est une première chose. Tout le monde ne le voit pas, naturellement, puisqu'il y a beaucoup de choses collées sur les vitrines. Oui. Mais en tout cas, c'est une première démarche. Après, en ce qui concerne la mission développement économique du pôle, moi, j'ai un bilan qui est présenté avant chaque 30 mars de chaque année pour l'année précédente. Mmh. En conseil syndical et qui est disponible aux citoyens en téléchargement sur le site Vivre dans le Perche.
D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc,
et qui est relayé aussi dans la presse avec... la presse donne souvent certains grands chiffres. Et c'est important de savoir que j'ai reçu entre 100 et 150 personnes par an, etc.
Et les résultats... Le montant des subventions que vous avez décrocher, etc.
Tout ça, c'est dans le bilan.
Ok, alors on était focalisé là sur l'Eure-et-Loire, le Perche, vos missions... Est-ce que, au niveau français, voire même européen, il y a une structure, parce qu'en France on aime bien ça, dans les pyramides, est-ce qu'il y a une structure, nationale qui regroupe tous les pôles territoriaux où vous échangez des bonnes pratiques, etc.
Oui, il y a la NPP, l'Agence nationale des pôles territoriaux et des pays, des anciens pays. Mmh. On se réunit très souvent. Bon, nous, on participe pas forcément à toutes les réunions, c'est plutôt le directeur du pôle territorial. Mais en tout cas, c'est important de confronter notre façon de faire, nos expériences, faire de l'essaimage sur certains projets. Mmh. Évidemment, il y a des choses qu'on peut essaimer chez nous, qui sont bien passées dans d'autres territoires, en les adaptant, c'est normal. Ouais. Voilà, des projets touristiques, des projets d'entreprise, des projets d'innovation sociale. On aime bien aussi les entreprises qui font différemment. On a un programme sur l'économie numérique et sur l'économie collaborative qui commence à prendre, qui est intéressante. Voilà, pour faire bouger nos campagnes. Voilà, ça, c'est,
Donc vous pouvez échanger les bonnes pratiques entre vous. C'est quand
bien
même
sûr,
très
bien
intéressant.
Sûr.
Bien, au niveau... Il n'y a pas de...
Il y a des commissions à la Commission européenne.
D'accord, il y a des fonctionnaires
européens. Mon directeur est allé plusieurs fois à Bruxelles, notamment pour défendre la ruralité. Je crois que c'est important aussi, parce qu'on parle beaucoup des agglomérations, etc., des métropoles, mais on parle assez peu de la ruralité. Ouais. On a été les premiers à décrocher le contrat de ruralité sur le territoire en France, les premiers à le signer. Pour développer des projets publics, ça peut être un city-stade comme la scénographie du château de Nogent, etc. Mmh. C'est des projets qui sont publics, mais qui servent aux citoyens, qui ont une utilité. Donc on porte auprès de l'Europe aussi le soutien à la ruralité. C'est
très
important.
Bien. Je crois que c'est important, surtout quand on a le vocable perche. Monsieur Leclerc, merci pour ces précisions qui, je pense, permettront de vous faire mieux connaître auprès des auditeurs d'Eure-et-Loire, et puis bravo pour ce que vous faites, parce que je crois qu'effectivement la défendre la ruralité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en 2017. Merci beaucoup.
Merci à vous.